VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'écouter VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du mardi 26 juillet 2016, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Albertson à la une ce matin.
RDC, deux personnes ont été tuées lors de heurts hier entre les forces de l'ordre et des manifestants. À qui s'en gagne ?
Au Soudan du Sud, un nouveau vice-président, Tabandeng Gaye, remplace Riek Machar. Riek Machar qui a fui la capitale Djouba après les violents combats début juillet.
Ici aux États-Unis, première journée de la Convention nationale du Parti démocrate. Après des débuts assez mouvementés, elle a commencé hier après-midi à Philadelphie, en Pennsylvanie. Parmi les orateurs, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders.
Together, my friends, we have begun a political revolution to transform America.
Voilà, ne manquez pas les sports et l'économie, ce sera en fin d'édition. Mais d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées lundi lors de heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants à Kisangani. Des détails avec Nathalie Barge.
Selon une source locale et un policier, il y a eu deux morts par balle. Les manifestants répondaient à l'appel de l'association des motocyclistes pour l'opération Kisangani sans moto afin de protester contre les arrestations arbitraires et autres tracasseries policières. Ils avaient barricadé les rues et un poste de police a été mis à sac. Nous n'avons pas appelé à barricader les routes ou à des casses, a déploré Soleil Bassomboli, président de l'association dénonçant une main inconnue qui aurait récupéré la manifestation. La situation politique est tendue en RDC à l'approche de la fin du mandat du président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter.
En Centrafrique, les trois ex-otages de Babwa, libérés le samedi dernier après plus d'une année de captivité par un groupe armé, ont été reçus hier par le président Faustin Archange Touadéra. On fait le point avec Freeman Sipila.
Avant d'être reçu par Faustin Conchetouadéra, le sous-préfet, le maire de Babwa et le pasteur de l'église apostolique de la commune de Aba ont été reçus dans la matinée par le premier ministre Simplice Mathieu Sarandi. Les trois hommes ont été relâchés et remis samedi aux autorités de Bouar dans des circonstances non encore élucidées. Le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique s'étaient abstenus de tout commentaire dans la journée. On ignore dans quelles conditions les négociations ont été menées pour obtenir la libération de ces personnes retenues durant 369 jours dans l'ouest de Centrafrique par un groupe armé qui appartiendrait à un certain commandant Abakar Zambla. Les otages expliquent avoir passé tout ce moment de captivité avec des chaînes aux pieds, ce qui justifie leur état de santé fragile, visible même dans leur manière de marcher. Fumansi Pila, Bangui, VOA Afrique.
Le Soudan du Sud a un nouveau vice-président. Tabandeng Gaye a remplacé Riek Machar, qui a fui la capitale Djouba après les violents combats au début du mois. Éric Manirakiza.
Le président Salva Kiir s'est appuyé sur une partie des responsables de l'ex-rébellion pour mettre sur la touche son rival Riek Machar. La nomination de Tabandeng, qui occupait déjà le portefeuille des mines, ne fait que confirmer les dissensions qui agitent les ex-rebelles que Salva Kiir a su exploiter. Mais Riek Machar, qui jouit encore du soutien de nombreux cadres de son mouvement, a immédiatement rejeté son remplacement. Il a par la suite relevé Tabandeng de ses fonctions de ministre. Depuis la semaine passée, M. Kiir avait appelé Riek Machar à revenir à Djouba pour poursuivre la mise en application de l'accord de paix pour mettre fin à une guerre civile. Estimant que sa sécurité n'est pas garantie dans la capitale, Riek Machar a conditionné son retour au déploiement d'une force d'intervention envisagée par les chefs d'État africains pendant leur récent sommet à Kigali au Rwanda.
La Ligue arabe a condamné lundi les interventions de l'Iran dans les affaires intérieures de ses pays membres lors d'un sommet d'une demi-journée à Nouakchott en Mauritanie. Un sommet qualifié par le président mauritanien de succès. Le sommet initialement prévu sur deux jours, puis ramené à la seule journée de ce lundi, s'était ouvert en fin de matinée en présence de 7 chefs d'État des 22 pays membres.
Le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, demande que le Conseil de sécurité de l'ONU augmente la pression sur le Maroc pour obtenir le retour de nombreux experts de l'ONU expulsés par Rabat. L'ONU doit faire le point cet après-midi et évaluer notamment si sa mission au Sahara occidental est en mesure de fonctionner malgré l'expulsion par le Maroc en mars de la majeure partie de ses experts civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, 19 personnes ont été tuées, 25 blessées lors d'une attaque au couteau dans un centre pour handicapés mentaux au Japon. L'attaque a été perpétrée aux premières heures mardi par un ancien employé. Un homme âgé d'une vingtaine d'années s'est rendu à la police après 3 heures ce mardi, disant être l'auteur de la tuerie. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de la préfecture de Kanagawa dans la région de Tokyo. Nous sommes en train d'essayer de déterminer les détails de l'affaire, a ajouté le porte-parole.
La répression continue en Turquie. 10 jours après le coup d'État manqué du 15 juillet, des mandats d'arrêt ont été émis par la justice à l'encontre de 42 journalistes. Il s'agit du dernier épisode d'une chasse aux sorcières déclenchée contre les partisans de Fethullah Gulen, prédicateur exilé aux États-Unis et accusé par Ankara d'avoir ourdi le putsch, ce que l'intéressé nie. Parallèlement à cette offensive contre les médias, le président Recep Tayyip Erdogan a eu lundi, dans un rare geste d'unité, un entretien de près de 3 heures avec 2 responsables de l'opposition. À l'issue de cette rencontre, il a promis d'élaborer une nouvelle constitution avec l'opposition.
L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie doit rencontrer ce mardi à Genève des représentants des États-Unis et de la Russie pour évoquer le conflit au lendemain de bombardements meurtriers près d'Alep qui font craindre une aggravation de la crise humanitaire. Moscou, allié du président syrien Bachar al-Assad, et Washington se sont mis d'accord sur une coopération accrue et des mesures concrètes destinées à sauver la trêve en Syrie et à combattre les djihadistes, notamment ceux du groupe État islamique.
L'agence Hamak, liée au groupe État islamique, a annoncé lundi que l'organisation djihadiste avait abattu un avion américain dans la province irakienne d'Al-Anbar. Une porte-parole du commandement central des forces américaines a démenti cette information.
La légende du basket américain Michael Jordan a affirmé hier qu'il ne pouvait pas rester silencieux face aux vives tensions entre Noirs et policiers ici aux États-Unis. Arzuma Compaoré.
Michael Jordan, dans une lettre ouverte publiée par le site The Undefeated, se dit attristé et frustré par les tensions raciales qui semblent empirer ces derniers temps. L'ancien basketteur, 7 fois champion de la NBA, a rompu le silence. Les morts d'un noir abattu par la police en Louisiane et d'un autre dans le Minnesota ont ravivé les tensions. Dans la foulée, 5 policiers ont été tués à Dallas et 3 à Baton Rouge. Le joueur de basket le plus célèbre au monde, dont la fortune est estimée à plus de 1 milliard de dollars, a décidé de donner 2 millions de dollars à 2 associations qui travaillent pour rapprocher la police et la population. Par ce geste symbolique, il a affirmé qu'il faut trouver des solutions afin que les gens de couleur soient assurés d'un traitement juste et égal et que les policiers qui mettent leur vie en danger tous les jours pour nous protéger soient aussi respectés et soutenus.
Ces nouvelles rassurantes concernant le virus Zika. Les personnes se rendant en août aux Jeux Olympiques de Rio ont un risque négligeable d'être contaminées par le virus et en cas d'infection, elles ne devraient pas propager l'épidémie dans le monde, selon une étude publiée lundi. Ces travaux, présentés par la revue médicale américaine Annals of Internal Medicine, confirment les conclusions de l'Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires américaines. Ces dernières avaient rejeté un appel de plus de 200 scientifiques pour annuler ou reporter les Jeux. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Après des débuts assez mouvementés, la Convention nationale du Parti démocrate a commencé hier après-midi à Philadelphie, en Pennsylvanie, suite à l'affaire du piratage d'emails embarrassants démontrant un manque d'impartialité de la part d'un comité national aux démocrates pro-Hillary Clinton. Compte rendu d'un de nos envoyés spéciaux sur place, Idrissa Sedoudia.
Sous la pression des partisans de Bernie Sanders, l'ancien rival de Mme Clinton, les leaders du Parti démocrate ont obligé la présidente du comité, Debbie Wasserman Schultz, à, pour ainsi dire, disparaître de la scène. Elle n'a pas ouvert et elle ne va pas clôturer la convention. C'était certainement pour éviter une révolte télévisée en direct à la nation. Pour s'assurer le soutien de leur aile progressiste, les leaders du parti ont laissé les grands discours de la soirée aux héros de cette faction. Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, et Bernie Sanders lui-même, sous les ovations des délégués.
Together, my friends, we have begun a political revolution to transform.
transform America.
Ensemble, chers amis, nous avons commencé une révolution politique pour transformer l'Amérique. Et cette révolution, notre révolution, continue. Il a dit que le pays avait besoin d'un leader qui améliorera la vie des familles, des travailleurs, des enfants, des personnes âgées, du malade et du pauvre. En somme, pas d'un leader qui insulte les latinos, les musulmans, les femmes, les africains américains et les anciens combattants et divise les américains.
By these measures, any objective observer will conclude.
Basé sur ces critères, s'est écrié Bernie Sanders, tout observateur objectif conclura que basé sur ses idées et son leadership, Hillary Clinton doit devenir la prochaine présidente des États-Unis. C'est sans conteste, a déclaré Bernie Sanders en appelant ses partisans à voter pour Madame Clinton, d'autant qu'il y a accord sur des sujets qui lui tiennent à cœur ainsi qu'à ses partisans. Auparavant, les délégués à la convention démocrate avaient entendu la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, tout aussi populaire que M. Sanders, en dénonçant le système économique injuste et corrompu qui, selon elle, rend les riches plus riches encore. Elle s'est lancée dans une attaque en règle contre Donald Trump et certaines de ses propositions.
Other than talking about building a stupid wall which will never get built,
qualifiant de stupide le mur que M. Trump veut construire pour empêcher l'immigration illégale, elle a dit que ce mur ne sera de toute façon jamais construit. Michelle Obama, l'épouse du président, a ému plus d'un dans son intervention en parlant de sa famille, en particulier de leurs deux filles et des appréhensions qu'ils avaient à leur sujet. La manière dont pourraient les affecter les attaques contre leur père, les doutes que l'on suscite sur sa nationalité américaine et sa religion. Et dans une allusion au slogan du républicain Donald Trump, restituer à l'Amérique sa grandeur, elle a évoqué une image forte qui illustre fort bien aujourd'hui la grandeur des États-Unis et les progrès accomplis. Ce fait significatif dans l'histoire des États-Unis.
I wake up every morning in a house that was built by slaves.
La maison où vivent ces filles a été construite par des esclaves et les voilà qui jouent dans la cour de cette même maison, la Maison Blanche, a-t-elle déclaré. Michelle Obama reste très populaire au sein du parti et sa présence et son discours visaient visiblement à galvaniser la base qui a permis à Barack Obama d'être élu en 2008 et réélu en 2012 à la Maison Blanche, c'est-à-dire les jeunes, les Africains-Américains, les Hispaniques, etc. pour que cette coalition appuie Mme Clinton en novembre.
Idrissa Seydou Dia, l'un de nos envoyés spéciaux à la Convention démocrate. En marge de cette convention des démocrates à Philadelphie, ont lieu des rencontres organisées par le NDI, l'Institut national démocratique, un think tank basé ici à Washington. Cette année encore, plusieurs délégations du continent africain ont été invitées, comme l'ancien premier ministre ivoirien, membre de l'opposition Pascal Affi-N'Guessan et l'opposant guinéen Sélou Dalène Diallo. On écoute d'abord l'ivoirien Pascal Affi-N'Guessan au micro de notre envoyé spécial à Philadelphie, Tatiana Mosso.
Ce qui est fondamental, c'est qu'au-delà du débat, qu'on se rassemble autour de l'idée essentielle, celle qui a été soutenue par la majorité des militants et des populations. Et je crois que c'est ce que nos amis démocrates, nos amis américains nous enseignent, que la démocratie, c'est vrai, c'est la confrontation des idées, mais aussi c'est l'unité autour d'une idée dominante pour aller à la conquête de l'électorat et pour faire avancer le pays.
L'opposant guinéen Sélou Dalène Diallo lui parle de ce que l'Afrique pourrait tirer de cette convention.
Je pense que les grands pays comme les États-Unis, qui sont attachés à un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles il y a la démocratie, les droits humains et la justice, doivent veiller à ce que aussi nos États progressent dans la construction de la démocratie et dans le respect de ces valeurs qui sont déjà instaurées ici et qui font la fierté du peuple américain.
Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette première journée de la Convention des démocrates qui prend fin le 28 juillet avec l'investiture de Hillary Clinton pour la présidentielle de novembre. Suivez de bout en bout cet événement avec nos envoyés spéciaux sur notre site internet voafrique.com et aussi sur notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassé Koura de retour avec vous sur VOA Afrique en direct de Washington. Nos dossiers du jour. Au Congo, l'opposant Paulin Makaya a été condamné hier lundi par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville à 24 mois d'emprisonnement et à 2,5 millions de francs CFA d'amende pour incitation au trouble à l'ordre public. En fait, le président du Parti Uni pour le Congo est accusé d'avoir organisé et participé à une marche contre le référendum constitutionnel. Ce référendum ayant permis au président Sassou Nguesso d'être réélu en avril dernier. Trésor Nzila Kende et de l'Observatoire congolais des droits de l'homme dénoncent un verdict politique qui est le résultat de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques en République du Congo. On écoute Trésor Nzila Kenda au micro de Nanif Talani.
Nous qualifions ce verdict de politique. Paulin Makaya est considéré comme un prisonnier d'opinion. Il a été arrêté et détenu uniquement pour avoir exercé de manière pacifique son droit à la liberté d'expression.
Il y a plusieurs personnes qui pensent que M. Makaya est victime de la politique du pouvoir en place. Qu'en pensez-vous?
Effectivement, M. Paulin Makaya est victime de la politique du pouvoir. Et il n'y a pas que M. Paulin Makaya. L'opposition est victime de la politique du pouvoir. Et l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques nous inquiète actuellement.
Parmi les prisonniers politiques, il y a le général Jean-Marie-Michel Moukoko. Où en est-on aujourd'hui avec son cas?
Il est là en prison. La procédure suit son cours normal. Mais le fait de voir le général Moukoko et les autres opposants en prison, il est clair qu'il y a eu une répression.
Est-ce qu'on a les nouvelles du pasteur Ntoumi?
C'est vrai, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui et c'est proche, mais il reste introuvable. Donc il n'y a pas d'informations concernant le pasteur Ntoumi.
Depuis la réélection de M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que vous avez le sentiment que la situation des droits de l'homme s'est améliorée en République du Congo?
On ne peut pas dire que la situation des droits de l'homme va bien en République du Congo. Depuis la réélection du président Sassou, la situation des droits de l'homme s'est dégradée. De plus belle est inacceptable.
Et en tant qu'organisme de défense des droits de l'homme, que prévoyez-vous faire pour que la situation des droits de l'homme s'améliore?
La détérioration de la situation politique et des droits humains en République du Congo doit pousser toute la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies, à agir face à la persécution des opposants politiques. Face au verrouillage de toute possibilité de se rassembler et de manifester pacifiquement. Face à la dictature et à la répression, le droit d'ingérence a toute sa légitimité. Il n'y aura pas de solution durable à la crise politique au Congo-Brazzaville si les opposants continuent à être persécutés et si les défenseurs des droits humains continuent à être intimidés.
Voilà, c'était Trésor Nzila Nkendat de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Il a été joint à Brazzaville par Nanif Talani. Au Gabon, notre correspondant Jean-Rovis Dabani a été interpellé, menotté, mis en joue et roué de coups par les forces de l'ordre ce week-end. Le samedi dernier, il couvrait une marche de l'opposition avant la présidentielle du 27 août. L'atmosphère pré-campagne est déjà tendue, laissant présager une montée de tension à l'approche du scrutin. L'éclairage de notre correspondant Jean-Rovis Dabani répondant à Idriss Fall.
Ça montre en fait qu'il y a une tension, mais vraiment les choses se sont dégradées ces derniers temps. Et voilà, donc ça veut dire que ce ne serait pas facile en fait pour les journalistes, aussi bien pour les opposants. Quoi. C'est très très compliqué pour travailler dans ces genres de conditions-là.
La campagne pour le moment?
C'est juste une pré-campagne avec le passé au pouvoir, donc le candidat, le président sortant qui effectue actuellement des déplacements à l'intérieur du pays. C'est vraiment en quelque sorte une campagne, hein, une campagne qui a commencé, même si officiellement la date qui est prévue pour l'ouverture de la campagne, c'est le 13 août.
L'opposition continue toujours de se battre autour de l'état civil de Ali Bongo.
Oui, l'opposition dit n'est pas lâchée. Ils disent non, il faut que les libertés individuelles, libertés de manifester, de marcher en fait soient garanties. Quoi. Le contexte, c'est un contexte électoral, donc il faut laisser les gens marcher, tenir leur meeting, leur réunion. L'idée, c'est pour les opposants. En fait, c'est de ne pas voir Ali Bongo se représenter, puisqu'il l'accuse en fait d'être un enfant né au Nigeria. Donc pour eux, il n'y a pas d'élection avec Ali Bongo, quoi. Donc c'est ça vraiment leur tombac.
Mais est-ce que cela ne prouve pas une certaine faiblesse de l'opposition, parce que l'élection présidentielle est à un seul tour, non?
Oui, justement, en même temps, il faut avouer que l'opposition également n'arrive pas à s'entendre, profondément divisée. Il y a les uns qui veulent aller aux élections avec ou sans Bongo, mais il y a les autres qui pensent également que ce serait un scénario impossible parce que Bongo va forcément se représenter. Donc il y a deux tendances en fait qui se dégagent là en ce moment. C'est sur les gens qui veulent aller aux élections sans Ali Bongo, et il y a d'autres également avec Ali Bongo, quoi. Et le comble pour la population, c'est que personne, en fait, les gens ne sont pas situés et ils se demandent est-ce que les opposants vont arriver à trouver en fait une candidature unique, et c'est ça le vrai enjeu.
Voilà, c'était notre correspondant à Libreville au Gabon, Jean-Rovis Dabani, au micro de Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Un SOS pour un nourrisson qui vit à la prison civile de Lomé au Togo. Un SOS lancé depuis une dizaine de jours sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il exactement? Laïkaï Lawson est notre correspondante à Lomé.
Le petit Denis, surnommé Justice, est né à la prison civile de Lomé. Sa mère, en détention depuis plus d'un an, l'a mise au monde il y a 4 mois. Sans mandat de dépôt, Benny hérite de la prison à la naissance. Il y vit avec sa mère dans une cellule avec une vingtaine de co-détenus. La mère, sans aucune aide extérieure, peine à prendre en charge véritablement son enfant. Benny ne dort pas sous moustiquaire et des taches rouges sur son corps laissent indiquer des piqûres de moustiques. Il manque de quoi se vêtir. Sa maman ne dispose pas suffisamment de lait pour le nourrir à satiété. Les conditions de vie du nourrisson dans la maison d'arrêt de Lomé ont interpellé l'Association Solidarité Mondiale pour les Personnes Détenues, qui a lancé un appel aux dons. Kokodo Kofi Wenanyon, président de cette association.
Ça fait 4 mois qu'elle vit avec le bébé en détention. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel pour qu'on puisse prendre le bébé en charge. Il y a des bonnes volontés qui donnent les couches, les habillements du bébé.
Comment se fait-il que l'enfant reste en détention avec sa maman?
Il y a deux problèmes qui se posent. Un, vous savez, prendre un enfant pour donner à quelqu'un aussi, il y a des procédures judiciaires à faire. Secondo, on ne trouve pas la personne qui peut engager, donc moi je prends l'enfant en charge.
L'initiative prise par Solidarité Mondiale pour les Personnes Détenues est saluée par l'administration pénitentiaire. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Étant donné que la femme qui est dans cette situation a besoin d'être aidée, d'être soutenue, d'être accompagnée. Donc c'est pourquoi je me réjouis de cet appel-là, parce que l'administration fait ce qu'elle peut. Bon, si des bonnes volontés aussi peuvent venir en appui, je crois que ce serait toujours un acte à apprécier de la part de l'administration pénitentiaire.
L'information qui circule sur les réseaux sociaux émeut plus d'un, à l'instar de cette dame que nous avons rencontrée à la prison civile de Lomé.
J'ai amené les habits de l'enfant, quelques habits aussi pour la maman de Lomé, une enveloppe de 10 000 francs. Que chacun puisse venir contribuer, ne serait-ce que pour un minimum de choses pour pouvoir allaiter ou habiller l'enfant, sachant que dans les conditions dans lesquelles elle est, elle ne peut pas bien s'occuper de l'enfant sans certains matériels.
La détenue, la trentaine, est déjà mère de 2 autres enfants. Elle est éclouée à la prison civile de Lomé pour une dette de 5 millions de francs CFA. Selon le directeur de l'administration pénitentiaire, cette situation ne s'opposerait pas si la mère du petit Béni ne s'opposait pas à confier son enfant aux services sociaux. Idrissou Akibou.
Lorsque les mamans accouchent, nous prenons attache avec les organisations de la société civile qui interviennent dans ce domaine, la Direction générale de l'enfance, l'UNICEF et d'autres encore, pour venir accompagner cette dame-là. Et généralement, nous faisons en sorte que ces enfants soient retirés des mamans pour la pouponnière, où il y a un suivi très conséquent pour les enfants. Il arrive des moments où certaines femmes s'opposent parce qu'elles croient que lorsqu'elles ont l'enfant avec elles à la prison, ce serait une raison fondamentale pour qu'elles soient mises en liberté. Donc c'est à cette situation que nous sommes confrontés.
Des tractations sont toujours en cours pour sortir Béni du milieu carcéral. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Lyndon.
Standard Bank continue son expansion sur le continent. Le groupe bancaire sud-africain vient en effet d'obtenir une licence d'établissement bancaire en Côte d'Ivoire, la 20e du genre en Afrique. Standard Bank Côte d'Ivoire va démarrer avec un capital social de 12 milliards de francs CFA. Un capital qui devrait être porté à 37 milliards de francs CFA d'ici à 4 ans. 1 milliard de dollars pour développer les parcs industriels en Afrique, c'est le montant que vont débourser la Banque africaine d'import-export et Exim Bank of China. Une initiative dénommée China Africa Investment and Industrialization Program. Depuis 1994, la Banque africaine d'import-export a approuvé plus de 41 milliards de dollars en facilité de crédit aux entreprises africaines. Au Maroc, militants de la société civile et membres de l'opposition ont exigé une enquête à propos d'une affaire portant sur l'acquisition par des responsables, dont des conseillers du roi et des ministres, de terrains de l'État à des prix dérisoires, soit 32 euros le mètre carré, alors que la valeur du mètre carré s'élève normalement à 2300 euros ou à près de 2700 euros dans les quartiers huppés de Rabat.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique en direct de Washington, c'est l'heure des sports. Bonjour Eric Manirakiza.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football. Infantino espère deux pays africains de plus et un mondial 2026 à 40 équipes.
Oui, le président de la FIFA espère que le continent africain, avec 5 qualifiés actuellement, obtienne 2 places de plus au Mondial 2026. C'est sa proposition d'un tournoi à 40 pays et retenu à Abuja. Actuellement, 32 équipes peuvent se qualifier à la Coupe du Monde et l'Afrique n'a droit qu'à 5 représentants.
Transfert en Angleterre, Joe Allen de Liverpool à Stoke pour 5 ans.
Le milieu international gallois Joe Allen quitte Liverpool pour Stoke City, où il s'est engagé pour 5 saisons contre un montant de 13 millions de livres. Joe Allen rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès mardi à Orlando, en Floride, où l'équipe doit disputer un match amical contre Orlando City mercredi. Il sera accompagné de la première recrue du club cet été, le jeune ailier international égyptien Ramadan Sebi, qui s'est engagé un peu plus tôt dans la journée. Allen, qui a 26 ans, a atteint les demi-finales de l'Euro en France avec le Pays des Galles et figure dans l'équipe type du tournoi.
Et puis parlons de dopage, première exclusion du sportif russe pour les JO de 2016 et premier appel au TAS.
Oui, Bagassi, le parcours du combattant juridique a commencé à 11 jours des Jeux de Rio. Officiellement, 10 sportifs russes, 7 nageurs, 2 haltérophiles et un lutteur ont été déclarés non éligibles hier par les Jeux de Rio. Ils ont été donc retirés de la liste de la délégation russe pour Rio établie par le comité olympique russe. En revanche, Bagassi, le comité international olympique, a maintenu la Russie dans les JO de Rio malgré un dopage d'État avéré, une décision qui divise le monde sportif mondial.
Et pour terminer, qu'en est-il du village olympique, Eric?
Oui, le village olympique Bagassi, dont plusieurs immeubles connaissent des avanies malgré l'inauguration officielle de dimanche, sera impeccable d'ici la fin de la semaine, a promis hier le comité d'organisation des Jeux olympiques de Rio 2016. Et c'est tout pour les sports Bagassi. Au revoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAfrique.com. À tout de suite.
Ainsi va le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation sur notre page Facebook. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Bagassi Koura ici à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.